Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de
Madame Sarah Sagroun.
Bonne écoute et bon limoud.
Chers amis, Boker Tov, demain c'est Tisha B'Av, le 9 Av, c'est le jour le plus triste de toute l'année. Le gros drame qui s'est abattu sur notre peuple ce jour-là, le drame majeur, ça a été la destruction du premier puis du second Beth Amikdash près de 500 ans plus tard. Tout le monde ou presque sait qu'il est interdit de manger et de boire ce jour-là, mais ce qui est moins connu, c'est l'interdiction de se réjouir de quelque manière qu'il soit. Même l'étude de la Torah est interdite ce jour-là à cause du caractère réjouissant de l'étude de la Torah. Chaque juif a l'obligation d'étudier, même le jour de Tisha B'Av, et ce jour-là, qu'est-ce qu'il faut étudier ? Sont certains passages qui sont particulièrement tristes. Le reste est interdit. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder les interdictions stricto sensu, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est de comprendre d'où elles viennent et de quelle façon vivre cette journée de la meilleure manière possible. Par exemple, une des halakhot, c'est de s'abstenir de travailler le jour du 9 av. Ça ne veut pas dire que super, c'est l'occasion de sortir un jeu de société et de jouer avec les enfants. Au contraire, il faut réfléchir et comprendre que cette abstention du travail, c'est là pour qu'au lieu de se concentrer sur le travail, on puisse se concentrer sur le deuil. Une halakha moins connue, c'est de ne pas saluer, de ne pas dire bonjour, parce qu'on est littéralement en état de deuil. Ou bien encore, dans la halakha, on dit que ce jour n'est pas propice aux promenades, ce n'est pas le jour à aller se promener en famille, ou pas en famille, tout seul. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des lois sur ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, il faut réaliser qu'il s'agit d'un jour de deuil. Le problème, malheureusement, c'est qu'on ne comprend pas forcément l'ampleur du deuil. On fait ce qu'il faut faire et on ne fait pas ce qui est interdit, mais on ne ressent pas forcément de tristesse. Alors qu'en réalité, c'est la mission première du jour. Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui avait détruit le premier temple, avait ordonné aux Lévi'im de chanter. Nebuchadnezzar est au meilleur de sa forme, c'est le grand roi, le conquérant, qui vient de détruire le temple de Dieu. Et il était dérangé par la tristesse de ses prisonniers, des juifs qu'il était en train d'exiler. Alors, il a exigé que les Lévi'im, on le sait, étaient les spécialistes du chant et de la musique dans le Beth Amikdash, il a exigé que les Lévi'im chantent en son honneur à lui. Et qu'est-ce que les Lévi'im ont répondu ? Ech nashir et shir Hashem el admat necha. Comment est-ce qu'on peut chanter le chant de Hashem en terre étrangère ? Ils se sont exclamés qu'il était impossible de chanter en exil pour les Babyloniens à l'image du chant qu'ils offraient à Hachem. Et ils se sont mutilés les mains jusqu'à ne plus pouvoir les utiliser physiquement pour jouer de leurs instruments. Maintenant, nous, pendant cette période des 3 semaines du 17 Tammuz au 9, voire au 10 Av, on n'écoute pas de musique. Mais est-ce que c'est à cause de notre grande douleur ? Ou est-ce que c'est parce que la loi l'interdit ? J'avais entendu la parabole suivante. Il y avait 2 familles dans un certain pays qui avaient désobéi aux lois locales, et le roi a décrété que les 2 familles seraient emprisonnées. En prison, leurs enfants respectifs ont grandi, et les enfants de la famille A se sont mariés avec les enfants de la famille B. Et quelques temps plus tard, une nouvelle génération était née, et la population de la prison s'était agrandie. Mais il y avait une différence majeure entre la génération des parents et la génération des petits-enfants. Les parents savaient ce qu'était la vie en dehors de la prison. Ils connaissaient la lumière du soleil. Ils avaient déjà eu la possibilité de se promener sans restriction d'espace. Les petits-enfants, par contre, n'avaient jamais connu cette vie. Ils estimaient très heureux de ce qu'ils avaient. Du pain à manger, de l'eau à boire, un endroit pour dormir. Que demande le peuple ? Les grands-parents recherchaient leur liberté. Ils pouvaient prier pour la retrouver. Mais les petits-enfants ne comprenaient même pas ce qui leur manquait. Les Lévi'im, eux, savaient ce qu'ils avaient perdu. C'était ce qui constituait leur vie quelques années plus tôt. Mais nous, malheureusement, nous ne savons pas. Nous n'avons pas connu Yerushalayim dans sa gloire et dans sa splendeur. Rav Israël Belsky était un grand rave en Amérique qui répondait à toutes sortes de questions à l'Afrique et qui est décédé récemment, l'année dernière. Il était connu et très très apprécié pour ses capacités intellectuelles et ses grandes connaissances dans tous les domaines. On lui a une fois demandé de quelle manière faut-il se préparer à cette période difficile qui précède le 9 av. Alors, si on pose la question à moi, j'aurais dit qu'il aurait dit « Étudier en détail les événements historiques liés à la destruction du Beth Amikdash, étudier la Megillah de Echa qui relate les malheurs de notre peuple, ou bien les prophéties de Yirmiyahu, de Jérémie qui annonçaient la destruction du Beth Amikdash faute de Teshuvah. Bref, se plonger dans le bain de la destruction. » Mais, rapporte le Rav Pessah Grom, ce n'est pas ce que le Rav Belsky a dit. Il a proposé, au contraire, d'étudier les lois qui concernent le Beth Amikdash. Quel corbanote offrir? Quand? De quelle manière? À quoi ressemblait le Beth Amikdash? C'était un monument extraordinaire. Bref, il a recommandé d'étudier tout ce qui touche à la splendeur du Beth Amikdash. Quand on réalise à quel point c'était extraordinaire, alors là, on peut comprendre l'ampleur de la perte et pleurer. On peut plus facilement demander à Dieu de faire venir très rapidement le Mashiach et de reconstruire Yerushalayim endeuillée. On peut étudier aussi sur la proximité de Hachem à cette époque-là. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'était facile, on offrait un corban et on se sentait proche de lui. J'ai lu une histoire dans un des livres du Rav Krom qui m'avait énormément impressionnée. En introduction, il faut savoir que les colonies de vacances en Amérique, ou au moins les centres aérés, c'est un chapitre très important dans la vie des enfants. Les activités sont en général très attirantes, bien conçues, éducatives. Et pendant le séjour, il y a un jour qui est mis en valeur, le jour des visites des parents. Les parents viennent rendre visite à leurs enfants et admirent le cadre, les activités, qu'est-ce que tu fais, où est ta chambre. Bref, donc notre histoire a lieu dans une de ces colonies de vacances et le responsable avait annoncé aux enfants que cette année-là, ils allaient mettre en place un projet spécial. Ils allaient construire une reproduction miniature du Beth Amikdash qui devrait être terminée avant le jour des visites pour que les parents puissent l'admirer aussi. Toutes les activités classiques qui faisaient le charme de la colonie, sport, promenade, activités manuelles, etc. seraient maintenues. Et en plus de ça, en bonus, ils allaient construire leur Beth Amikdash. Ok, très bonne idée. Un groupe va faire la menorah, un autre va faire le shulchan, la table, jusque dans les menus détails. Chacun était responsable d'une partie du Beth Amikdash. Et l'enthousiasme des enfants augmentait avec l'avancement de la construction. Avant de construire, ils étudiaient en long, en large et en travers tout ce qui les concernait, et ils se mettaient à la construction avec des matériaux de qualité, de la peinture, des paillettes, bref, tout ce qu'il faut pour rendre un enfant et même un adulte très heureux. Le jour des visites était prévu quelques jours après le 9 av, et avant encore le 9 av, leur Beth Amikdash était prêt. Alors, il a été mis dans un certain endroit, protégé par des barrières pour que personne ne puisse toucher ou abîmer, et le soir du 9 av, les enfants se sont rassemblés autour de leur Beth Amikdash, qui était bien protégé hors d'atteinte, et le moniteur en chef a pris la parole pour expliquer à quel point la vie à l'époque où le Beth Amikdash était là était formidable. Il a décrit le service des Kohanim, le chant des Lévites, notre proximité avec Dieu, la structure même du Beth Amikdash qui impressionnait même les non-juifs. Mais les Bnei Israël ont commencé à mal agir. Les prophètes essayaient de les ramener à la Tchouva, mais sans résultat. Jusqu'au jour où les soldats sont entrés dans Jérusalem et ont enflammé le temple. Et pendant que le moniteur racontait, un autre moniteur était caché derrière leur Beth Amikdash miniature et l'a également enflammé. Les enfants se sont mis à hurler de frayeur pendant que leur Beth Amikdash brûlait. D'un point de vue sécuritaire, les moniteurs avaient la situation en main, les enfants n'avaient pas la possibilité de s'approcher du Beth Amikdash et c'était bien protégé. À part ça, le responsable du projet du Beth Amikdash avait recouvert le mur qui représentait le kotel d'un produit imperméable pour que ce mur-là ne brûle pas. Au bout de quelques minutes, leur beau travail n'était plus que des cendres, à part le mur du kotel. Les enfants sanglotaient. Les moniteurs eux-mêmes étaient sous le choc. Des semaines de travail, des semaines d'investissement, un travail, un beau travail. Lorsque la situation s'est un peu calmée et que les enfants ont pu asseoir les enfants, le moniteur en chef a repris la parole et a commencé en s'exclamant « Sur quoi pleurez-vous maintenant? Tout le monde est en train de pleurer. Sur quoi ?» Aletzim va avanim, sur des morceaux de pierre, de bois, sur une construction qui nous a pris au plus quelques semaines. Mais ce soir, le 9 av, nous pleurons sur le vrai Beth Amikdash, sur lequel représentait la présence divine. Ça, c'est le début de Tisha B'Av. Les enfants avaient pris conscience ce soir-là de la manière la plus concrète possible de l'essence de la journée. Cette histoire est très spéciale et je n'ouvre pas la porte au débat qui ne se terminerait pas parce que indéniablement il y a un côté traumatisant, c'est vrai que c'est très difficile, mais même à part ce côté-là et ces débats, le message est très fort, même pour nous qui n'avons pas vécu directement cette histoire dans la colonie de vacances. On peut se mettre à la place des enfants. Cette semaine, c'est la paracha de Vaetranan. Un petit point sur cette paracha. On a quelques psukim directement liés aux événements qui nous concernent. Le pasuk nous dit « Kitolid banim ou vnevanim » « Vous allez avoir des enfants en terre d'Israël et vous allez faire des bêtises. Ishratetem, ishratem, vous allez vous abîmer, vous détruire. Vasitem pesel, vous allez faire de la avodazara. Vasitem arabe ene Hashem, vous allez faire le mal auprès de Hashem. Aïdoti vachem, ayom et Hashem, ayom et Hashem, le ciel et la terre sont portés
sont témoins, qui avotent au Védou de mer que vous serez vite perdus, mais Allah arrête de cette terre-là la terre d'Israël. Ishamet, Ishamedoun, vous serez détruits, anéantis. Vous remarquerez qu'on a une petite redondance. Avod Tovedoun, vous serez détruits. Pourquoi pas un langage simple? Pourquoi Avod Tovedoun? Et deux fois, on aurait pu dire simplement Tovedoun. Répond le Kliyakar qu'il s'agit d'une double punition, liée à une double faute. On a doublement fauté. Asitem Pesel va Asitem Araben et Hachem. Vous avez fait de l'idolâtrie et en plus de ça, vous vous êtes éloigné de Dieu. C'est pas vous avez servi les idolâtries et en plus vous avez continué à servir Hachem. Non, on s'est rapproché du mal, c'est une chose, on s'est éloigné du bien, c'est autre chose. Une double faute. Alors est arrivée la double punition. Avot Tovedoun, vous serez perdus. Ishamet Ishamedoun, vous serez exilés. C'est quoi la double punition? On a été emmené en exil d'une part et Yerushalayim a été déserté d'autre part. Nous avons quitté notre endroit, notre source, pour vivre au sein de nos ennemis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons plus cette proximité à la spiritualité, à Dieu comme nous le souhaitons. Et nous sommes aux mains de nos ennemis de la manière la plus terrible et la plus effroyable. Si on prend cela à cœur, si on réalise, alors on sera capable de pleurer pour la délivrance et d'espérer le retour de la présence divine à Yerushalayim. Et alors là, on a droit en la promesse divine qui affirme que lorsque nos torts seront réparés, nous aurons droit à un réconfort double. Il est écrit dans le livre de Yeshayahu, « Nachamu, Nachamu, Ami, deux fois consoler mon peuple, consoler, consoler mon peuple, une fois pour nous délivrer de nos ennemis et une fois pour nous ramener à Yerushalayim reconstruite. » En espérant que, lorsque vous recevrez ce cours, ces idées ne seront plus d'actualité. Si toutefois la délivrance ne serait pas encore arrivée et le 9 av resterait le 9 av dans tout son deuil, n'oubliez pas de voir au-delà des lois. Ce n'est pas juste du technique faire, ne pas faire. C'est accomplir le technique en comprenant d'où il vient et en vivant le deuil au-delà de ses manifestations extérieures. Il faut comprendre que la difficulté à ressentir le manque ne vient pas du manque qui n'est pas si terrible après tout, mais au contraire, il y a un manque terrible. C'est juste que nous ne savons pas l'ampleur de ce que nous perdons, nous n'avons jamais vécu à cette époque-là. Alors essayez d'apprendre ce qu'était Yerushalayim dans sa gloire. Il faut chercher des ouvrages qui décrivent la force du Beth Amikdash, la force de la proximité avec Hachem à cette époque. Mettez-vous à la place des enfants qui ont vu leur beau projet réduit en cendres en quelques minutes et faites la comparaison avec le vrai Beth Amikdash. Au-delà du monument spectaculaire qu'était le Beth Amikdash, c'était le lieu de résidence de Hachem, là où on pouvait aller consulter Hachem quand on voulait. Lorsqu'on arrivera à ressentir les souffrances du 9 av, lorsqu'on pleurera sur la double faute, qui est aussi la double punition d'être proche de nos ennemis et de loin de Dieu, alors arrivera la double consolation, plaise à Dieu qui nous délivre de nos malheurs et nous ramène près de lui avec le Beth Amikdash reconstruit.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.